Merci d'écouter RFI. Il est 17h en temps universel, 20h à Addis Abeba.
Arthur Ponchelet.
Et 18h à Paris, à la une, Emmanuel Macron en Éthiopie. Le président français est arrivé à Addis Abeba tout à l'heure après une visite à Djibouti. Il s'est entretenu avec son homologue Abiy Ahmed. On sera sur place dès le début de ce journal. L'auteur présumé de l'attaque sur le marché de Noël en Allemagne était vraisemblablement mécontent du traitement des réfugiés saoudiens dans le pays. Déclaration tout à l'heure du procureur local. 5 personnes ont été tuées hier à Magdebourg. Au sommaire également, on sera à Marseille où un rassemblement en soutien à Mayotte s'est tenue aujourd'hui. Et puis en Corée du Sud, où les manifestants continuent de demander le départ du président. Et sur place, vous l'entendrez, la solidarité est de mise. Suite de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, le président français était à Djibouti ce matin où il s'est entretenu avec son homologue Ismaïlou Omar Guelleh. Ils ont notamment discuté de l'avenir de la base militaire française sur place, une base qui va se réinventer selon les mots du chef de l'État comme un point de projection pour des missions en Afrique. Il a aussi été question de la guerre au Soudan et de la mise en place d'un processus de dialogue. Après Djibouti, Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi en Éthiopie. Récit de sa visite avec notre envoyé spécial, Pierre Firsion.
Tout au long du parcours qui relie l'aéroport au centre de la capitale éthiopienne, le visage d'Emmanuel Macron et le drapeau français s'affichent sur d'innombrables panneaux publicitaires. Premier geste du président français à son arrivée, le dépôt d'une gerbe au monument de la bataille d'Adwa, bataille historique qui signa la victoire retentissante de l'Éthiopie face à l'Italie en 1896. À l'issue de la courte cérémonie, le chef de l'État français s'est autorisé un mini bain de foule. Quelques dizaines de personnes, souvent jeunes, équipées de leurs smartphones, ont alors immortalisé l'événement. Le chef de l'État français a ensuite pris la direction du Palais National, édifice construit en 1955 pour célébrer le jubilé d'argent du règne de l'empereur Haïlé Sélassié. Les travaux de rénovation et de transformation de cet édifice en musée ont été financés par l'AFD, l'Agence française de développement. Après la visite du musée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Un entretien suivi d'un dîner ce soir. Les sujets de discussion entre les deux hommes ne manquent pas, de la dimension bilatérale à l'accord mettant fin aux tensions entre l'Éthiopie et la Somalie, en passant par la situation intérieure en Éthiopie. Pierre Firsion, Addis Abeba. RFI.
On en sait plus sur les contours de l'attaque à la voiture Bélier hier soir en Allemagne. Une voiture a foncé sur la foule au marché de Noël de Magdebourg. 5 personnes sont mortes et plus de 200 blessés. L'auteur présumé, un médecin saoudien de 50 ans, semble avoir été mécontent du traitement des réfugiés saoudiens dans le pays. C'est ce que dit le procureur local. Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur allemand parlait, lui, d'un suspect islamophobe. Un nouveau contingent de soignants est arrivé à Mayotte, 45 personnes pour monter un hôpital de campagne. Il devrait être opérationnel dans 48 à 72 heures et accueillir des patients. Sur place, la situation est toujours très compliquée depuis le passage du cyclone Chido. Les files d'attente s'allongent devant les stations-service. L'accès à l'eau potable est lui aussi très difficile. Mayotte panse ses plaies. Mayotte préoccupe aussi jusque dans l'Hexagone. Une mobilisation était organisée aujourd'hui à Marseille à l'appel d'associations de Mahorais. Rassemblement timide, pas plus de 200 personnes étaient réunies, mais Tahamida, mahoraise engagée dans la collecte de dons, l'assure. La solidarité se met en marche dans la cité phocéenne.
On a récolté énormément de dons, on était en train de trier tout ce qui est les habits, mais pas que, on a réceptionné les denrées alimentaires. Il y a eu énormément de packs d'eau qui ont été mis dans les palettes. Se retrouver avec une bouteille par famille, c'est pas évident, on ne tient pas avec une bouteille par jour. Là, il prévoit 6 camions pour pouvoir ramener à Lyon et pouvoir envoyer tout ça par conteneur. On a eu des chiffres de la ville de Marseille qui ont quoi, ils avaient donné 50 000 euros, mais c'est des chiffres, mais concrètement, nous, on a besoin du concret. Les gens ont besoin du concret, pas juste donner des chiffres, des estimations. Et quand ce qui permet de redire ça, c'est vraiment quand on a la famille qui sont sur place, qui mettent sur, dès qu'ils ont un peu de réseau, SOS, on meurt de soif, SOS, SOS. Quand on entend ces chiffres, on dit non, c'est pas possible. On nous balance d'énormes chiffres. Or, sur place, il n'y a rien. Après, je peux comprendre, ça prend du temps.
Témoignage recueilli par notre correspondant à Marseille, Léopold Picot. Un accord de cessez-le-feu à Gaza, plus proche que jamais, c'est ce que déclare aujourd'hui le Hamas et deux autres groupes palestiniens dans un rare communiqué commun. Ils ajoutent que l'accord pourrait être finalisé avant la fin de l'année, si et seulement si Israël cesse d'imposer de nouvelles conditions. Trois civils tués dans une frappe dans le nord-est de la Syrie. Les forces de sécurité intérieure kurdes l'imputent à un drone turc et parle de violation flagrante du droit international. Cela intervient au lendemain de la mort de deux journalistes kurdes, là aussi dans une frappe de drone turc. Toujours en Syrie, les nouvelles autorités au pouvoir à Damas ont nommé un ministre des Affaires étrangères, Assad al-Shibani. C'est lui qui a notamment rencontré cette semaine les délégations françaises et allemandes à Damas, Paris et Berlin, désireux de nouer des contacts avec les nouveaux maîtres de la Syrie. En Corée du Sud, la colère ne retombe pas après la tentative ratée du président d'imposer la loi martiale. Yoon Suk-yeol a été démis de ses fonctions il y a une semaine par les députés. Reste à la Cour constitutionnelle de trancher pour valider cette destitution. Destitution que les manifestants appellent en nombre sur place. La société civile continue de se mobiliser. Reportage à Séoul de Camille Ruiz.
Sandwich, boulettes de riz, café chaud, tous ces encas sont offerts par des anonymes près des lieux de rassemblement. Le Parlement mais aussi Gwanghwamun, la grande place de Séoul. Objectif, apporter du soutien aux manifestants qui exigent la destitution définitive du président Yoon Suk-yeol. Minso a bénéficié de ses cadeaux prépayés. L'étudiante se réchauffe autour d'un thé vert brûlant.
Je suis très touchée, très reconnaissante des Sud-Coréens qui vivent à l'étranger ou qui ne peuvent pas venir pour des raisons qui les regardent, nous offrent des boissons chaudes et de la nourriture. C'est leur manière de nous montrer leur soutien.
Il suffit aux manifestants de se rendre dans certaines boutiques et de donner un code. Ceux-ci sont partagés via les réseaux sociaux. Certains magasins les affichent au-dessus de leur comptoir. Sur Internet, une carte participative a même été créée, toujours de manière anonyme. Dessus, toutes les indications nécessaires pour profiter de ces dons, lieu, code, stock des produits prépayés. On peut y lire par exemple le nom d'un café, associé du nombre de 100 américanos disponibles et du mot de passe « démocratie ». La carte en question ne représente pas que la capitale, mais tout le pays, car des actions similaires sont menées dans d'autres grandes villes, à Gwangju, Busan et même sur l'île de Jeju, au sud du pays. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
TikTok en Albanie, c'est fini, en tout cas pour un an au moins. Le Premier ministre Edi Rama vient d'annoncer la suspension du réseau social chinois. TikTok est le voyou du quartier, selon ses mots. L'application est la cible de nombreuses critiques dans le pays, notamment depuis la mort d'un jeune de 14 ans il y a moins d'un mois, après une rixe sur fond de conflit sur les réseaux sociaux. L'Albanie devient le premier pays d'Europe à fermer l'accès à TikTok. Direction le Portugal, avant de refermer ce journal, où la droite et l'extrême droite votent ensemble. Les députés ont fait passer une loi pour restreindre l'accès aux soins des immigrés non résidents. Un texte qui suscite la colère de l'opposition et de plusieurs ONG. Toutes s'inquiètent de ce virage à droite. RFI Lisbonne, Marilyn Darcy.
Le tourisme de santé, c'est fini. Au Portugal, la droite et l'extrême droite ont fait bloc à l'Assemblée nationale pour adopter un changement à la loi de base de la santé. Désormais, les non-résidents sur le territoire, à l'exception des ressortissants de l'Union européenne, ne pourront plus bénéficier gratuitement des soins dans les hôpitaux du pays. L'objectif affiché est de réduire l'engorgement des services de santé et de diminuer les coûts, même si l'impact de ce tourisme de santé n'est pas clairement évalué financièrement. L'opposition tout entière s'est indignée contre ce qu'elle considère comme un glissement vers les thèses du Chega, le parti d'extrême droite. Alors que la loi était adoptée, le même jour, le gouvernement ordonnait une opération policière d'envergure dans la Mouraria, le quartier des immigrés du centre de Lisbonne, afin, a-t-il justifié, de montrer la sécurité à l'œuvre. Les résultats très minces, un clandestin, quelques faux papiers et des produits contrefaits découverts sont un contre-exemple, mais la dérive droitière inquiète. Un mois après les émeutes de banlieue provoquées par la mort d'un Cap-Verdien tué par la police. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
Un mot du vent des globes et avant de se quitter, les skippers s'approchent doucement du Cap Horn. En tout cas, les deux premiers, Johan Richom et Charlie Dalin, qui se tiennent en 20 000 nautiques seulement après 41 jours de mer. Le troisième, Sébastien Simon, a lui un peu de mal à tenir le rythme, la faute à un bateau un peu endommagé. Il lui manque un foil, une des appendices qui lui permet de voler sur l'eau. La flotte cagnotte s'est étirée depuis quelques jours, depuis quelques semaines en vérité, puisque Thomas Ruyant, quatrième, pointe à 1000 milles nautiques de la tête de course. Il est 17h passé de 10 minutes en temps universel. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, c'est l'atelier politique sur RFI.